15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, nous prenons soin de vous, de vos petits et gros bobos. Et pour m'accompagner dans cette tâche, il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux séparations qui nous font grandir sur les plans amoureux, familial, amical ou même professionnel. Nous sommes tous confrontés à des ruptures, parfois subies, parfois désirées. Et ces moments de vie, vous verrez, modifient parfois même en bien notre façon de voir l'avenir. C'est le sujet du livre de la thérapeute Anne-Laure Buffet. Elle sera en ligne avec nous pour en parler. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours, nous répondrons à vos questions, mais désormais aussi celles qui concernent vos petits et gros bobos du quotidien. On sort un peu du coronavirus, ça fait du bien aussi. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de certains fantasmes qui sortent un peu de l'ordinaire.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant ça, pour ouvrir votre magazine santé avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre quelques minutes pour répondre encore à quelques-unes de vos questions autour du coronavirus. On en reçoit encore quelques-unes, c'est vrai. On va commencer par celle de Katrina, Jimmy. On va l'écouter.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Donc j'ai une question, je me demandais pourquoi on n'infecterait pas toutes les plages en France. Il me semble qu'ils le font à Cannes. Pour lutter contre le coronavirus. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne émission.
Merci Katrina pour votre question. Alors Jimmy, j'ai l'impression qu'à Cannes, on a toujours fait plus que partout ailleurs. Hein. On a désinfecté les rues, là maintenant c'est les plages. Est-ce que ça sert à quelque chose ?
Non,
sans en politique bien sûr, juste d'un point de vue médical, sanitaire, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, c'est vrai que c'est absolument absurde. À un moment, il y avait une période de doute où justement il y avait ces campagnes de communication en Chine et le Haut Conseil de la Santé publique s'était interrogé en se demandant est-ce qu'il était justifié de désinfecter les espaces publics à l'extérieur ? Évidemment que non. Un, le virus ne survit pas à la chaleur ni sur des surfaces inertes, même si on peut retrouver des traces de particules du virus, mais c'est pas contagieux. Et puis deux, c'est pas, peut-être même contre-productif avec un risque pour l'environnement. Et puis lorsque vous allez propulser avec ces souffleurs peut-être des particules, là vous risquez peut-être de tomber malade. Et donc on a vu récemment sur les plages de Cannes, quelqu'un désinfecter le sable n'est pas vecteur de la maladie, donc c'est inutile et peut-être même dangereux.
J'ai l'impression que c'est quand même une opération plutôt de communication, ou en tout cas pour rassurer peut-être psychologiquement les baigneurs, les futurs vacanciers, c'est ça non ?
Ouais, mais je pense que c'est contre-productif, parce que si on désinfecte, vous allez peut-être vous croire protégé, vu que c'est dans un espace propre, et donc à ce moment-là,
faire moins attention,
et à ce moment-là tomber malade, donc je pense que c'est encore une fois inutile, contre-productif par la même occasion.
Alors justement, Jimmy, il y a eu un moment donné, les plages ont rouvert pour certaines depuis déjà quelques temps, mais avec ce qu'on appelle les plages dynamiques, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être en mouvement, ça c'est fini. Vous préférez rester sur votre serviette, Jimmy, ça tombe bien. Quelles sont justement les bonnes précautions à prendre si on veut aller poser sa serviette sur la plage ?
Bon, il est quand même temps de revivre un peu normalement. L'épidémie n'est pas terminée, mais elle est quasiment arrêtée. Il y a des clusters à droite et à gauche. Le risque d'être malade en espace extérieur est faible. Il est quasiment nul sur une plage, encore moins dans de l'eau ni sur votre serviette tranquillement. Donc si vous êtes au sein de la cellule intrafamiliale, vous êtes avec vos enfants, vos parents, vous faites ce que vous voulez,
tranquille.
Vous embrassez vos enfants, vous embrassez vos parents, peu importe. Vous restez
le monsieur qui tousse sur la serviette d'à côté, on le laisse un peu
exactement,
loin.
Mais comme tout le temps, qui a envie de se coller aux autres de toute façon, coronavirus ou pas, donc respectez des distances et puis ça devrait largement faire l'affaire.
Alors je crois par contre que donc, désinfecter les plages, vous dites ça sert à rien, ça sert pas à grand chose. En revanche, dans les espaces clos, il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est une technique avec des lampes UV dans le métro qui est en train d'être testée, ça c'est intéressant apparemment.
Exactement, le coronavirus est sensible aux UV, alors non pas pour vous faire des UV dans la cabine pour avoir un bon teint, comme Donald Trump l'avait dit, mais en revanche, dans les espaces clos comme dans les transports en commun, plutôt que de mettre des agents pour désinfecter, puisqu'on sait que c'est les métros, les bus sont des vecteurs de la maladie, eh bien il existe une technique avec des lampes à UV où il ne faut pas qu'il y ait de personne à l'intérieur.
C'est ça quand c'est vide.
Exactement quand c'est vide, avec des petits flashs de détruire le virus. Et donc on gagne du temps, c'est beaucoup plus efficace. Donc peut-être que dans l'avenir, nos métros seront équipés de ce genre de dispositifs. Et puis il y a même une nouvelle technique qui devrait arriver où il sera possible de mettre ce genre d'UV, mais avec même des personnes à l'intérieur sans que ça nuise à leur propre santé. Donc une piste intéressante pour la désinfection des transports en commun qui est peut-être plus importante que celle des autres espaces publics.
Très bien Jimmy. Alors on va passer à une autre question. C'est celle de Laurence à Paris qui nous demande, Jimmy, s'il faut s'inquiéter de la réouverture des écoles et des collèges. Alors c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé, mais c'est vrai que là, on passe à la phase suivante. Il y a plus d'écoles, plus de collèges qui vont rouvrir. Est-ce qu'il y a un risque?
Alors écoutez, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas très chaud à titre personnel
vous
pour mettre mes enfants.
Vous n'avez pas mis vos enfants d'ailleurs jusque-là à l'école,
parce que
hein,
j'avais la chance de pouvoir les faire garder autrement. Mais désormais, à la réouverture, je vais les mettre à l'école puisque l'épidémie, on l'a dit, elle est quasiment éteinte. Et puis surtout, on s'est rendu compte que les enfants n'étaient pas trop vecteurs de la maladie, qu'ils tombent peu malades. Et même lorsqu'ils tombent malades, ils font des formes mineures. On a eu quelques cas de Kawasaki, mais finalement, ça reste très marginal. En plus, la transmission se fait plutôt des adultes vers les enfants. Et une fois qu'on a fermé les écoles, l'épidémie n'est pas partie pour autant. Donc on a peut-être fait fausse route à l'époque. On ne va pas critiquer, mais parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas. Donc, il n'y a pas de risque à mettre les enfants à l'école. Surtout qu'à l'international, d'autres pays l'ont déjà fait. Le Danemark, au 15 avril, a été le premier pays occidental à rouvrir les écoles.
Il y en a même
qui n'ont
jamais fermé. Hein.
En Suède, notamment, où il n'y a eu pas vraiment de confinement. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas eu d'explosion, de cluster. Il y a juste un cas d'une étude en Israël où il y avait des super contaminants qui ont transmis la maladie. Mais dans le monde entier, tout le monde a rouvert ses écoles, sauf les États-Unis et les Italiens qui sont plutôt frileux. Donc pour l'instant, on a des nouvelles plutôt rassurantes et donc il est possible d'ouvrir les écoles et peut-être même temps de les ouvrir.
Ça leur fera peut-être effectivement du bien aux enfants parce qu'il peut y avoir des dégâts aussi, de manque de sociabilité chez les enfants. Alors Jimmy, on a une autre question. C'est Bertrand dans les Hauts-de-France qui nous a écrit pour nous demander ce que valait cette énième étude publiée ce week-end sur un médicament qui éviterait d'être hospitalisé, dit-il, en réanimation. C'est une étude française qui a testé un médicament habituellement utilisé en rhumatologie, je crois.
Exactement, c'est le deuxième traitement qui est proposé par des rhumatologues. Alors ça s'appelle l'Anakinra, il a été publié dans une grande revue, c'est le Lancet Rhumatologie. Encore une fois, c'est une revue qui est... Le Lancet a été décrié, mais c'est une revue qui est extrêmement sérieuse. Ce n'est pas quelqu'un qui publie sur Twitter ou ni sur YouTube. Il y a un comité de lecture. C'est une étude française menée à Saint-Joseph.
Un comité de lecture, ce sont d'autres experts, pas ceux qui publient, qui relisent les travaux. On est d'accord. Hein,
c'est exactement.
Ça pour,
des
pour
gens
analyser les chiffres indépendants.
Pour
voilà,
dire
c'est
qu'il
ça.
Y a une cohérence.
C'est ça le comité de relecture.
Exactement. Alors qu'on a eu beaucoup de pré-publications, des gens qui mettent leurs études
tout
sur un serveur
en ligne,
et qui
ça.
Sont peut-être pas forcément retenus. Alors en tout cas, là, donc on a l'anakinra, qui est un inhibiteur, un antagoniste de l'interleukine numéro 1. Alors l'interleukine, c'est une molécule médiateur de l'inflammation de l'immunité qui est sécrétée en trop grande quantité en cas de coronavirus, responsable de cette tempête cytokinique qui va entraîner parfois le décès. Et on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant, surtout que c'est déjà utilisé en rhumatologie. Donc on a eu un groupe contrôle avec 44 patients qui n'ont pas eu de traitement, 52 autres malades qui ont eu justement cette anakinra. Et on s'est rendu compte...
Assez tôt hein, dans la maladie, je crois, au 7e jour. Enfin,
exactement,
assez tôt,
avant la dégradation. Mm-hmm. Et on s'est rendu compte que les malades qui ont pris ce traitement... ont 32%, 25% pardon, de risque d'aller en réanimation et d'être intubé ou de décéder, contre 75% pour ceux qui n'ont pas eu de traitement.
Donc seulement 25% quand on prend rien, quand on prend ce médicament, et 75% finissent en réanimation quand
et
ils le prennent pas.
La différence est statistiquement significative. Donc c'est une piste, il faut que ce soit confirmé avec une nouvelle étude contrôlée, randomisée, mais c'est un vrai espoir et on espère que ce sera confirmé. Ça a été confirmé par une autre étude italienne quelques semaines auparavant, donc la piste semble plutôt intéressante.
Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est la thérapeute Anne-Laure Buffet qui va nous parler de ces séparations qui nous font grandir, qu'il s'agisse de ruptures amoureuses, amicales ou même professionnelles. Même si au départ, elles peuvent nous mettre en mille morceaux, souvent, à plus long terme, elles nous aident finalement à devenir nous-mêmes, à mieux dessiner notre avenir. On vous en dit plus dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous, Anne-Laure Buffet. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes thérapeute et créatrice de l'association Contre les violences psychologiques. Vous êtes également l'auteur du livre Ces séparations qui nous font grandir aux éditions Erol. Anne-Laure Buffet, on parle de quel type de relation là quand on parle de séparation? Je parle juste du titre de votre livre, mais ces séparations qui nous font grandir au sens large. On ne parle pas que des relations amoureuses, hein, je crois.
Non, pas du tout. On parle de toutes les séparations auxquelles on peut être confronté dans notre vie, qu'on en soit conscient ou pas d'ailleurs, mais ça peut être donc une séparation amoureuse bien sûr, une séparation amicale, une séparation dans le cadre du travail, la séparation avec un parent, d'un lieu aussi dans lequel on a vécu ou qu'on a désiré pendant longtemps et que l'on doit quitter. C'est tous les types de séparations qui sont moins évidentes d'ailleurs que la séparation amoureuse.
Il faut quand même, quand on parle de séparation et dans le sens dans lequel vous le prenez dans votre bouquin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un impact émotionnel, qu'il y ait un attachement tout de même, hein, c'est ça ?
Oui. De toute façon, il n'y a pas de séparation. Enfin, s'il n'y a pas eu d'attachement à l'origine, il n'y a pas de séparation possible ou envisageable. Il n'existe pas de fait. La question de l'attachement, elle est toujours particulière. Parce que est-ce qu'on est attaché volontairement? Pourquoi on est attaché? Enfin, c'est toutes ces questions-là que j'ai essayé un petit peu d'explorer. Et pourquoi c'est difficile aussi de se détacher, même si c'est pour une projection bénéfique. Pourquoi souvent ça nous semble difficile de nous détacher de quelqu'un ou de quelque chose.
Docteur Jimmy Mohamed.
C'est vrai que quand on parle de séparation, on pense à la séparation amoureuse. Et vous l'avez dit, ça peut être simplement une séparation amicale. Ça veut dire qu'on peut vraiment être impacté si on quitte son collègue. Par exemple, le jour où notre duo avec Mélanie se terminera, s'achèvera, est-ce qu'on peut être impacté?
Il est sympa, lui. On vient juste de se retrouver en studio. Il parle déjà de se séparer. Hein. C'est agréable.
Papa, vous êtes prévenu.
Au moins, il est très bien. J'ai le temps de me préparer.
Non, mais c'est vrai. Enfin, je crois que de toute façon, la séparation amicale, elle est tout à fait comparable avec la séparation amoureuse, puisque qu'est-ce qui différencie globalement l'amour de l'amitié, ou en tout cas comment on projette cette relation-là, c'est la question de la sexualité. Mais l'attachement amical, il est extrêmement fort et c'est ce que j'évoque aussi. C'est parfois on se confie beaucoup plus à nos amis, on leur dit beaucoup plus de choses qu'à nos compagnons ou qu'à nos compagnes. Ils en savent beaucoup plus sur nous, ils sont détenteurs de certains secrets, de certaines parties de nous qui nous sont presque inconscientes ou inconnues. Et devoir se séparer, quelle que soit la raison pour laquelle on se sépare, c'est aussi laisser une part de nous à cet ami. Donc c'est difficile.
Mais j'ai l'impression qu'en amitié, alors je ne dis pas, il y a parfois des disputes vraiment fortes et violentes, mais souvent en amitié, ça se défait un peu tout seul aussi. Je pense par exemple aux amis qu'on avait quand on était jeunes, avec qui finalement on perd. Ce n'est pas des séparations brutales, c'est souvent moins brutal peut-être qu'amoureusement, non ? Enfin, je ne sais pas.
Hein. Justement, c'est une séparation. Donc, c'est mon point de vue, hein, bien évidemment, mais pour moi, la séparation n'a pas la brutalité de la rupture. Parce que la séparation, elle s'étire dans le temps, donc elle se prépare plus ou moins, elle se conçoit plus ou moins, et elle laisse entrevoir un autre possible. Alors que la rupture, l'instant d'avant, on était ensemble, l'instant d'après, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et si on prend un exemple décalé de la relation amoureuse, mais mettons un déménagement, l'instant d'avant, on est encore chez soi, et à partir du moment où on rend les clés, on n'est définitivement plus chez soi, et pourtant, émotionnellement, on peut encore être extrêmement attaché à l'endroit. Et c'est là où c'est la différence. Enfin, la séparation de l'endroit sur le plan affectif et émotionnel n'est pas encore faite. Alors, je prends l'exemple du déménagement, mais c'est valable pour tout. Si on pense au jour où on a arrêté de voir un ami parce qu'on a décidé que c'était plus possible, c'est une rupture, on peut être encore attaché. L'amitié qui se dénoue, qui se délite avec le temps parce que les années passent, parce qu'on voit moins les personnes, parce que nos vies évoluent, mais où il n'y a pas de fracture, on y repense parfois avec mélancolie ou nostalgie, mais on n'a pas ce sentiment d'avoir quelque chose qui nous est arraché ou qu'on est obligé de s'arracher pour ne pas avoir à souffrir.
Vous parlez dans votre livre de séparation désirée, prévue et des autres qui sont subies. C'est quoi la différence entre tout ça finalement ?
La séparation subie, on peut s'y attendre, mais justement sans l'avoir voulu. Donc, sans avoir conçu ce qui allait se passer après, sans même avoir voulu l'envisager. Il y a beaucoup de déni dans les séparations qui sont subies. On espère toujours que ça va s'arranger, ça va aller mieux, qu'un autre possible dans le même cadre, sans rien modifier au cadre, est envisageable. Alors que la séparation désirée, c'est pas pour ça qu'elle va se mettre en œuvre tout de suite, mais la séparation désirée nous laisse entrevoir un autrement. La possibilité de faire autre chose. Donc, on est en capacité de se projeter. Et d'ailleurs, avec le terme de séparation, s'ajoute aussi une chose, c'est qu'on pense à des séparations réelles, et c'est encore plus vrai, je pense, avec les séparations désirées, on pense à des séparations réelles. Parfois, ce sont des séparations symboliques, c'est-à-dire qu'on va rester dans notre couple, on va rester en amitié ou on va rester dans notre cadre professionnel, mais en revanche, on va modifier la façon dans laquelle on s'inscrit dans ce cadre, ce qu'on en attend, ce qu'on y projette, qu'on en retire aussi. Donc, c'est pas forcément une séparation, je claque la porte, je m'en vais, adieu.
C'est pas toujours ça.
Ça peut être, je reste, mais la personne telle que vous la connaissiez va petit à petit se modifier, et c'est mon choix, c'est mon désir. Donc, c'est à mon environnement aussi de me voir évoluer dans le cadre tel qu'il est.
Jimmy ?
J'ai été triste de me séparer de ma voiture l'année dernière. C'est pas une blague, non, mais non, rigolez pas, parce que en fait, c'est la voiture dans laquelle mes enfants ont grandi. Certains sont nés dedans, et donc on peut aussi être triste d'une séparation d'un lieu ou d'un objet qui paraît finalement un peu futile.
Bah, oui, tout à fait. Vous savez, la première séparation d'un objet qui peut paraître futile pour un enfant, c'est la séparation du doudou. Et pourtant, quand on voit les doudous des enfants qui sont parfois dans des états impitoyables, les pauvres doudous, on peut s'étonner aussi qu'ils soient encore autant attachés à des peluches complètement en état de décomposition. Mais c'est très difficile. Effectivement, c'est une étape, se séparer d'une voiture dans laquelle vous avez vu grandir vos enfants. Vous êtes peut-être même allé chercher à la maternité ou je ne sais quoi.
Exactement,
c'est ça.
Ça correspond à une tranche de vie.
C'est pas pour ça qu'on le regrette. Que Jimmy était ridicule avec sa voiture, mais vous savez, je me rappelle de la première voiture de mon papa, je crois, effectivement, et j'en ai un souvenir ému de ce. C'était un peu avec des nids de poule, enfin bref, c'était peu importe. C'est vrai, j'ai un petit souvenir là. Alors voilà. Bon, Anne-Laure Buffet, vous bougez pas, on fait que commencer cet entretien, on vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous décrypter ce que ces séparations, que ce soit amoureuses, amicales ou même professionnelles, entraînent en nous et surtout en quoi elles nous transforment le plus souvent durablement. On y revient dans quelques minutes, à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et notre invité, c'est vous, Anne-Laure Buffet. Vous êtes thérapeute et vous êtes également l'auteur du livre Ces séparations qui nous font grandir aux éditions Erol. Alors, Anne-Laure, pourquoi on a tant de mal à se séparer? Pourquoi on n'est pas finalement plus blindé que ça, je dirais, puisqu'on sait très bien que ça fait partie de la vie de se séparer de ses parents, de peut-être avoir plusieurs petits amis, petites amies. Enfin, je veux dire, la séparation, quand on sait très bien que ça va venir un jour, quoi. Donc pourquoi on n'est pas plus fort que ça?
On n'est jamais prêt à se séparer. On le sait, hein, rationnellement, oui, quand on est quand on a été un minimum éduqué, je veux dire, quand on nous a appris un certain nombre de choses, transmis un certain nombre de choses, on sait qu'à un moment, on va devoir quitter nos parents, effectivement, peut-être se séparer d'un amour, quitter le lycée pour passer dans les études supérieures, ce qui n'est pas forcément évident. Mais ça marque la fin de quelque chose. Et je crois que l'idée de la fin est terrorisante pour énormément de personnes. Savoir que on laisse et qu'on ne retrouvera plus, en tout cas jamais comme c'était avant, savoir qu'on doit également mettre en œuvre quelque chose de différent qu'on n'avait peut-être pas prévu ou dont on n'avait pas forcément le désir, savoir aussi que ça repose sur nous, c'est-à-dire que finalement, pour pouvoir survivre, parfois, ou en tout cas surmonter une séparation, on peut être entouré, on peut être aidé, on peut être accompagné de diverses manières, mais la seule personne qui puisse vraiment franchir l'étape de la séparation, c'est nous-mêmes. Et donc c'est un investissement, une responsabilité qui sont énormes et on n'est pas forcément apte ou prêt à affronter cette espèce de vide devant lequel on se retrouve. Et encore une fois, on peut vraiment désirer certaines séparations, se dire voilà, il est temps pour moi de partir de chez mes parents ou de changer de travail ou de quitter la personne avec laquelle je vis parce que la relation, sans être conflictuelle, la relation ne fonctionne plus. Mais c'est toutes ces petites parts de nous qu'on laisse et qui deviennent tellement évidentes finalement au moment où on doit se séparer, est-ce qu'on est prêt à s'en détacher et est-ce qu'on est prêt à regarder devant et à concevoir que ce que l'on espère peut devenir notre réalité, sachant que c'est à nous le créer.
Sommes-nous tous égaux face à une séparation? Il y a des gens qui sont très sensibles et puis d'autres peut-être qui sont peut-être un peu moins, voire égoïstes et qui se fichent totalement qu'on les quitte. Et pour qui c'est plus facile une séparation ou pas du tout finalement? On peut tous être un peu tristes dans notre coin.
Je crois que d'abord, on n'est jamais égaux devant quoi que ce soit, hein, tout ce temps qu'on est. D'ailleurs, c'est quand même ça qui est merveilleux avec l'être humain, c'est qu'on est tous différents et qu'on réagit tous différemment et qu'on peut tous s'enrichir grâce à ça. Si on était tous pareils, ce serait d'une platitude et d'une tristesse effrayante. Mais je crois que personne ne peut se satisfaire ou n'est pas en tout cas touché par le fait d'être quitté. Même la personne la plus narcissique au monde ne peut pas supporter d'être quittée. La personne la plus dépendante au monde ne peut pas survivre. En tout cas, elle pense qu'elle ne survivra pas à une séparation. Elle survivra, mais elle pense qu'elle ne survivra pas.
Et c'est justement parce qu'on survit qu'on grandit, j'allais vous dire, parce que parlons peut-être juste de la séparation, de la rupture amoureuse. Justement, c'est parce qu'on pense que la solitude c'est une tare qu'on est aussi dans cet état. Ça nous éviterait du chagrin d'arriver à avaler le fait qu'être seul c'est pas finalement une punition.
Ça éviterait beaucoup de chagrin. Alors c'est vrai que la solitude c'est problématique parce qu'elle est quand même très pointée du doigt. Il y a haro sur le baudet sur la solitude dans notre société. C'est-à-dire que la personne qui à la limite choisirait en conscience et volontairement de vivre pendant une certaine période seule.
On se dit elle a un problème, elle est déprimée, quoi. Il y a un truc, quoi.
Soit elle est déprimée, soit elle est folle, soit elle cache quelque chose. Enfin, de toute façon, on la stigmatise. Et se dire, je vais me retrouver seule, c'est aussi affronter le regard des autres et affronter le jugement des autres. Et se dire, ben, finalement, si moi je suis seule, c'est mon histoire. Alors après, quand c'est une séparation subie, quand c'est une rupture et qu'on se retrouve seule et qu'on n'a pas projeté du tout cette solitude et qu'on ne sait pas quoi en faire, c'est non seulement la solitude, mais c'est aussi un sentiment de vide immense. Et là, c'est la possibilité effectivement de grandir, de se dire ben, finalement c'est à moi de remplir ce que je vide. Donc qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que j'ai autour de moi, quelles ressources je peux développer, quels étaient peut-être mes rêves, mais même d'enfance que je n'ai pas exploré. Je vais avoir l'occasion, douloureuse certes, mais l'occasion maintenant de les explorer et puis de m'y construire.
Jimmy,
vous dites dans votre livre que se séparer, ça permet d'accoucher de soi. Pouvez-vous nous expliquer ?
Vous savez, tant qu'on est en lien avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une croyance, avec une conception symbolique de la relation ou même de la vie, on est attaché à quelque chose qui est extérieur à nous. L'accouchement, par définition, c'est quand même la première des séparations. Alors, cet accouchement, mais il y a aussi le fait de couper le cordon ombilical, qui est une première rupture, et ô combien difficile souvent pour beaucoup de mères et beaucoup d'enfants. Et pourquoi accoucher ? C'est-à-dire s'autoriser. C'est l'accouchement un peu au terme de dans le sens de la maïeutique, c'est s'autoriser à laisser sortir de nous ce qui jusque-là était soit tu, soit ignoré, soit refoulé. Donc il faut aller le chercher, c'est un effort, un accouchement. Alors, vous ne le connaissez pas, Mélanie, je ne sais pas.
Deux fois. Je suis séparée deux fois, mais je suis bien contente.
Mais un accouchement, quand on dit que c'est dans la douleur, sans effrayer les jeunes femmes qui voudraient des enfants et qui n'en ont pas eu, c'est quand même pas une super méga partie de plaisir.
Même si la péridurale, c'est pas génial.
Voilà. Et accoucher de soi, c'est se confronter à soi déjà pour laisser sortir de soi ce qu'on espère en être le meilleur sans vraiment le connaître. Donc c'est douloureux, mais c'est aussi se dire voilà, je suis face à moi-même, qu'est-ce que j'attends de moi, qu'est-ce que je me donne, qu'est-ce que je m'offre, qu'est-ce que je découvre de moi et comment je le nourris.
On va s'arrêter un tout petit peu, Anne-Laure Buffet, mais bien sûr on va continuer cet entretien juste après.
Europe 1.
Dans quelques minutes, vous l'avez compris, nous allons continuer à parler de ces séparations qui nous font grandir. Un conjoint qui s'en va, un ami qui prend ses distances, la perte d'un boulot. Ça peut être horriblement douloureux un temps, mais en réalité, bien souvent, ça nous aide à devenir plus forts. On va vous détailler tout ça. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Avec nous aussi, notre invité du jour, toujours en ligne, c'est vous, Anne-Laure Buffet. Vous êtes thérapeute. Alors Anne-Laure, les séparations qui nous font grandir, c'est donc le titre de votre livre. Et justement, quand on quitte aussi le nid, c'est-à-dire quand on quitte ses parents, quand on devient adulte, là aussi, c'est une séparation. Bon, c'est clairement, on sait, un moment où on est censé grandir, on va gagner en autonomie, mais c'est une séparation qui va nous faire grandir, clairement.
En principe, c'est une séparation qui est censée faire grandir, clairement. Après, en l'occurrence, pour les jeunes adultes qui quittent le nid, la séparation ne peut faire grandir que si les parents y sont prêts et si les enfants y ont été préparés.
J'allais vous le dire, ça dépend de comment s'est déroulée notre enfance, tout dépend aussi comment les parents nous ont, entre guillemets, formatés à les quitter, quoi. C'est ça aussi, hein, plus ou moins douloureux, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de relations, alors sans penser tout de suite à une relation trop fusionnelle ou trop possessive d'un parent vis-à-vis de son enfant, il y a quand même beaucoup de relations où, d'une certaine manière, on ne voit pas grandir ses enfants. Enfin, dans notre quotidien, oui, on se rend compte qu'ils sont quand même plus grands que quand ils étaient bébés, mais on ne les voit pas vraiment grandir et on n'envisage pas forcément qu'à un moment, ils ne seront plus là du tout. Ou en tout cas, que pour des raisons de fête ou des vacances. Et faut pouvoir s'y préparer, il faut pouvoir aussi leur donner ces clés-là, c'est-à-dire leur dire que, bien sûr, on les aime et ils sont bien chez nous, mais leur vie n'est pas avec leurs parents, leur vie doit être à l'extérieur et à ça, ils doivent se préparer. séparer. Et si on leur mâche le travail, on ne les laisse pas partir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut laisser ses enfants grandir, c'est aussi les laisser se confronter à la réalité. Petit, on évite bien sûr qu'ils se blessent, mais s'ils se cognent, on est là pour les consoler, les soigner. Mais on les laisse quand même se confronter à leur environnement et de plus en plus. Et pour nos adolescents, nos jeunes adultes, c'est aussi la même chose. Là où c'est très compliqué, c'est quand subitement, il faut être séparé de ses parents ou séparé de ses enfants parce qu'il y a un accident de vie brutal qui fait qu'on en est éloigné pour une certaine période.
Bon, ça fait 12 semaines là, que je les prépare à nous quitter un peu, aller chez les grands-parents parce qu'on n'en peut plus. Mais on prépare ça, on a eu 12 semaines pour préparer. Jimmy, à vous.
Certains, et vous savez, je crois que vous n'êtes pas la seule.
Là, on rêve de séparation hein, beaucoup, hein, je pense.
Certains ne supportent pas, ont du mal au changement, surtout de se séparer de vieilles affaires. Moi, j'ai une
vieille PlayStation. On a compris sa voiture, alors maintenant c'est la PlayStation.
Ah oui, la PlayStation 3, je n'y joue pas, mais au grand désespoir de ma femme, il est impossible de la jeter. Elle trône dans un des placards. Comment est-ce qu'on explique cela ?
Vous êtes matérialiste, hein, c'est tout.
Mais qu'est-ce qu'elle représente ? Passez dans mon cabinet, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la PlayStation ?
Ah, je me
demande
aussi.
À quel moment l'avez-vous ? Qui vous l'a offert ?
Ah, j'étais étudiant, et avec qui ? Étudiant insouciant.
Qui vous l'avez acheté ?
Je l'avais acheté tout seul, premier job.
Vous avez peur de perdre votre insouciance, docteur ?
Ah, je crois que j'ai consulté avec vous. Non, mais donc, je suis troublé. Non, mais ceux qui justement ont du mal à séparer des vieilles affaires, ce n'est pas simplement une histoire de matériel, c'est que derrière, il y a peut-être une raison plus sentimentale.
Derrière, il y a un autre attachement. Ça représente quelque chose. Et derrière, il y a un attachement qui fait que ce n'est pas l'objet en tant que tel. Parce que là, vous parlez d'une PlayStation.
Ça ne marche même plus, apparemment.
Ouais. Ça pourrait être un radiocassette, ça pourrait être. Enfin, ce sont des objets qui sont la concrétisation d'une période importante de notre vie. Et on ne pense pas forcément, enfin, on ne fait pas forcément le lien, mais c'est vrai que laisser la PlayStation, c'est peut-être. Alors, tout à l'heure, vous parliez de vos enfants et de votre voiture. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le sens de l'humour de Europe 1, puisque juste après, on a eu une pub pour je ne sais plus quelle marque de voiture.
Pas attention, mais c'était pas
un petit clin d'œil. Mais c'est. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, vous avez dit insouciance, et on ne va certainement pas épiloguer sur votre cas, mais c'est peut-être cette insouciance-là que vous avez peur de perdre. Donc la bascule dans une réalité que vous croiriez sans insouciance.
Anne-Laure, pour terminer, il y a beaucoup de gens, là, justement, après le confinement, après cette épidémie, qui pensent à se séparer de leur job, là, pour le coup, qui ont fait un point sur leur vie, qui se disent, là, je vais tout quitter, l'appart, le job. Ça, c'est des séparations qui vont faire grandir ou c'est des décisions un peu prises à la va-vite, comme ça, il faut se recadrer et attendre un peu ?
Il faut se recadrer et attendre un peu. Là, la période de confinement, elle n'était pas prévue. Donc, ça nous a été, pour le coup, c'est la séparation subie d'une vie normale. C'est la confrontation à quelque chose qui est où on était dans l'incertitude à longueur de temps et dans la peur pour beaucoup à longueur de temps, l'espoir que ça va s'arranger, mais l'espoir d'un mieux, avec quand même pour les trois quarts des gens des situations très complexes où on se retrouve avec nos proches enfermés, parfois dans des lieux petits voire exigus, et en même temps une météo qui a été tout à fait exceptionnelle. Et il y a forcément cette question-là chez beaucoup de gens qui est mais pourquoi je m'ennuie dans ma vie, pourquoi je tourne en rond, pourquoi je n'essaye pas autre chose. Mais pour l'instant, c'est un désir et il faut essayer de comprendre si ce désir repose sur une réalité possible ou au contraire si c'est une projection d'un mieux-être qui a un écho à ce confinement mais qui ne peut pas se concrétiser. En revanche, ce qui est certain, c'est que toutes ces personnes, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, qui se sont dit c'est peut-être l'occasion de changer de vie, elles ont au fond d'elles un besoin et il est tout de même à écouter et à explorer, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Anne-Laure Buffet d'avoir accepté notre invitation et nous avoir permis de voir donc le positif qui peut ressortir même des moments difficiles comme les séparations qui marquent notre vie. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient. Ce sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé, bien-être, celles que vous nous laissez sur notre répondeur au 3921. On revient très vite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du bon docteur Jimmy Mohamed. Alors tout de suite, on va retrouver notre vrai faux, vos questions santé, bien-être au 3921. C'était pour vous réveiller un peu, je vous sentais faiblard.
Tout va bien.
Non, ça va ? Allez, c'est parti. Donc les questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. On va écouter la première, c'est celle de Stéphanie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur. J'ai vu dans les commerces des pubs pour des balances connectées. Alors je suis moi-même un petit peu en surpoids et je me demandais ce que ça pouvait m'apporter pour se surveiller à votre avis. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors voilà, donc la question de Stéphanie. Jimmy, vous, les balances connectées, je sais que vous aimez bien les gadgets, mais je ne sais même pas si vous vous pesez de temps en temps, vous devriez.
Non, je m'en fiche complètement. Au maximum, une fois par mois, quand balance tombe par là, non, j'ai vraiment...
Ouais, ça se voit d'ailleurs.
Mais oui, non, mais voilà, franchement, marié, trois enfants, ça y est.
On arrête,
ma vie est accomplie. Et mes belles années sont derrière moi, donc maintenant, c'est la déchéance qui m'a
fait. On dirait un vieux routard qui part. Bon, allez, pour répondre à cette question, on a interrogé le médecin nutritionniste Arnaud Cocol, on l'écoute.
Le problème des balances connectées, c'est que tout repose sur un plateau. Il n'y a pas de poignée. Or, on va estimer avec ces balances connectées uniquement la masse grasse dans la partie inférieure, parce que le courant va passer d'une jambe à l'autre. Donc, vous sous-évaluez la masse grasse totale, parce que la masse grasse est surtout localisée au-dessus du nombril. Vous voyez, au-dessus de la ceinture, je vais dire, abdominale. Le problème de ces balances, c'est qu'il faut en prendre et en laisser. C'est-à-dire que c'est une approximation, c'est peut-être une aide, mais ce n'est pas forcément extrêmement fiable. Et ça ne vous renseigne absolument pas sur la graisse abdominale, qui est la graisse prépondérante chez l'humain. Si vous avez des balances avec, par contre, des poignées qui vous permettent d'évaluer là, par courant, par impédance-métrie, la présence de graisse dans la partie haute du corps, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus fiable.
Bon, voilà pour la réponse du docteur Cocol, qui était donc au micro de notre journaliste Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Alain. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai des douleurs à la vessie depuis un moment et j'ai entendu parler du syndrome de la vessie douloureuse. Mais je ne sais pas trop ce que c'est, donc voilà, si vous pouviez m'éclaircir sur ce syndrome. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, au revoir.
Bon, bah Jimmy, question simple, la vessie douloureuse, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est ce qu'on appelle la cystite interstitielle, c'est 90% plutôt des femmes qui sont concernées par ce problème. C'est l'inflammation de la vessie qui est responsable d'envies d'uriner qui sont plus ou moins douloureuses. La vessie se contracte et vous avez besoin d'aller jusqu'à 30 fois par jour aux toilettes. Et lorsque vous allez aux toilettes, c'est des brûlures qui sont absolument insoutenables. De plus, vous avez des envies pressantes et si jamais vous ne vous retenez pas, c'est douloureux. Et si vous ne vous retenez pas, pardon, vous pouvez aussi avoir des pertes d'urine.
Oui,
donc
fuites,
c'est responsable d'un handicap social très important et surtout qu'il y a souvent un retard diagnostique vu que c'est un syndrome qui est très peu connu.
Bon, bah, ça nous a fait un peu peur quand même tout ça. Est-ce que ça se traite ? Il y a un moyen de traiter ça ou pas, Jimmy ?
Alors tout d'abord, on ne sait pas vraiment à quoi c'est dû. Donc on l'a dit, c'est plutôt des femmes. Une des hypothèses, c'est qu'en fait, il y a une altération de la paroi de la vessie. Normalement, l'intérieur de la vessie est tapissé d'une couche de protéines dont le rôle est de protéger la paroi des composants agressifs et toxiques de l'urine. Sauf que cette couche, chez les personnes malades, est plutôt déficiente et donc perméable. Ce qui veut donc dire que des éléments toxiques, comme du potassium concentré, peuvent pénétrer la paroi de la vessie, responsable de l'inflammation et du coup de la cystite. Sauf qu'on n'a pas de traitement curateur.
Oh, non.
On a simplement des mesures qui permettent de soulager la douleur, parfois des anti-inflammatoires, parfois des antihistaminiques, parce qu'on pense qu'il y a une cause allergique à ce mécanisme, certains antidépresseurs. Et dans certains cas, on peut avoir recours à la chirurgie, mais les traitements sont peu efficaces, souvent avec de lourds effets secondaires. Bref, un calvaire, même si on arrive à équilibrer parfois la qualité de vie, puisque c'est souvent compliqué pour ces personnes-là.
Eh bien, dis donc, c'était pas très réjouissant. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Alain, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé et bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo, comme tous les jours. Aujourd'hui, il sera question de fantasmes. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle est de retour dans le studio.
Youpi, voilà, elle fait les cuicuis en direct.
On n'entend plus les oiseaux, c'était bien aussi, mais on préfère vous avoir à côté de nous, Catherine.
Merci.
À bonne distance, hein, bien sûr, Catherine Blanc. Donc je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris et que donc aujourd'hui vous allez répondre à la question de Thomas, qui a 34 ans, je vais vous la lire. Ma copine m'a demandé l'autre soir, pendant que l'on faisait l'amour, que je lui lèche les pieds. Ah, vous n'êtes pas revenue pour rien, Catherine, attention. J'ai refusé.
Quand on me réserve le meilleur.
J'ai refusé. Et depuis, elle me fait la tête. Elle me dit que je ne suis qu'un égoïste qui ne pense pas au fantasme de l'autre. Vous en pensez quoi ? Bon, alors là, on avait vraiment besoin de vous, Catherine, parce que franchement, Jimmy n'aurait pas su quoi répondre. Catherine, est-ce que la copine de Thomas, c'est parce qu'elle est fétichiste des pieds ? C'est ça, non, ce qu'on dit, non ?
Je ne sais pas si elle est fétichiste. En tout cas, manifestement, elle aime beaucoup ce genre de choses. Alors, pourquoi elle l'aime beaucoup ? Est-ce qu'elle réellement, elle aime l'idée qu'on lui touche, caresse et lèche les pieds ? Ou est-ce que c'est justement pour éprouver Thomas qu'elle a besoin de revendiquer des choses pour voir jusqu'où il peut aller pour traduire son désir, son amour ? amour ou son obéissance, de, traduction de son amour.
C'est un drôle de test, hein, quand même.
Voilà, bon, il y a des choses toujours curieuses hein, dans les relations amoureuses. Souvent, c'est si tu m'aimes, fais ça, ou j'aimerais tellement que tu me fasses ça, pour voir jusqu'où l'autre peut aller. Mais est-ce qu'on doit aller au bout du bout du bout des fantasmes de l'autre, et même s'ils sont gentillés, ou est-ce qu'on est égoïste dès lors qu'on n'y répond pas Alors, non, c'est vous avez envie d'y répondre.
Jimmy, oui, alors, je suis sûr que les pieds comme ça léchés, ça vous inspire, non ?
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ça inspire beaucoup Benjamin Lévesque, ouais. Et je crois qu'il est très inspiré par ça. Bon, on ne va pas tout raconter, mais vous dites aller au bout du bout du bout, mais ce n'est pas non plus le truc le plus, on va dire, hardcore de lécher les pieds de quelqu'un. Alors, je ne dis pas que.
Ah ouais,
c'est
alors
mon truc.
Là, on a compris, en fait. Ce n'était pas la question de Thomas, je pense que c'est la question de Jimmy.
Non, absolument pas, déjà, j'ai 33 ans et pas 34. Mais est-ce que c'est fréquent ? Parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose de fréquent, mais, ou pas, je ne sais pas d'ailleurs.
Non, enfin, c'est fréquent, je ne suis pas dans tous les couples. Tout le monde dans mon cabinet ne me parle pas de ces jeux amoureux. Bien qu'on parle de sexualité, on ne parle pas dans le détail de ce que l'on aime ou pas, si on aime plutôt les lobes de l'oreille ou les pieds ou que sais-je. Donc, en tout cas, tout est possible. Et en effet, vous avez raison, le corps, il n'y a pas d'endroit qui ne soit un endroit qui ne soit pas sain, qui ne soit pas désirable, grignotable.
Moi, je
ne
trouve pas ça très désirable, honnêtement, les pieds, je ne comprends pas.
C'est
quoi ça
vôtres,
pue, les pieds
vôtres, enfin, mais c'est le problème, c'est pour ça, il faut les laver.
Non, non, mais en fait, qu'est-ce qu'il peut, pour les gens qui aiment les pieds, concrètement, qu'est-ce qui peut attirer ? Parce que là,
mais il y a des gens étrangers. Mais parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensuel dans le pied. Le pied est massé. Si vous faites de la réflexo, il est touché, caressé, des points qui sont stimulés. Et évidemment que la salive, que le chaud, l'humide,
les champignons,
etc. Non, encore une fois, des pieds ne sont pas censés être malades. Oui. Ils peuvent être tout à fait en bonne santé et très beaux. Simplement, encore une fois, si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui aime les chevaux, ben, c'est pas parce qu'il aime les chevaux et qu'il voudrait faire l'amour, je sais pas, près des chevaux, contre le corps chaud d'un cheval, qu'il faut y aller si on a peur soi-même de cela. Ou si on a envie de faire une balade à cheval, eh bien, est-ce qu'on y va parce que l'autre aime ça sous prétexte qu'on l'aime ? On a le droit d'avoir les limites. On a le droit d'être écœuré par des points du corps, pas parce qu'on est écœuré par l'autre, mais écœuré parce que ça nous renvoie, nous. Et si nous, une oreille, c'est dégueu, ou un pied, c'est dégueu, ça ne veut pas dire que l'oreille ou le pied de l'autre, ça l'est. Et on ne peut pas, au nom de l'amour et de l'érotisme, et pour que l'autre soit satisfait, toujours se soumettre, même aux choses les plus banales. Même si, en effet, comme vous disiez très justement, Jimmy, franchement, les pieds, c'est rien de très problématique.
Alors, allez-y, Jimmy, vous aimez les pieds.
Ah bah, écoutez, Mélanie, on parlera de vos mycoses une autre fois, vous avez sans problème. Pour une question d'auditeur, on ne dira pas à Mélanie.
Allez-y, bref. Allez-y.
Mais du coup, est-ce que la réaction n'est pas un peu égoïste, étant donné que son partenaire refuse de lui lécher les pieds ? Derrière, bouder, c'est un peu une réaction d'enfant, non ?
Ouais, alors, d'enfant un peu qui gâté. Est l'égoïste, voilà, c'est effectivement. Celui qui est l'égoïste, est-ce que c'est celui qui n'accepte pas ou c'est celui qui râle parce qu'on n'accepte pas ? En effet, je crois qu'il faut accepter que dans la relation, il y a toujours des frustrations et que de part et d'autre, eh bien, on doit pouvoir poser des limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Et en effet, on ne boude pas parce qu'on ne vous fait pas le petit truc que vous vouliez qu'on vous fasse. Alors, si ça tient pour elle, si toute sa sexualité...
Tiens à ça, ouais, c'est un peu...
Mais c'est peut-être sa zone érogène plus que de son sexe, par exemple. Si là est une façon de déporter, par exemple, quelque chose qu'elle n'aimerait pas, peut-être un cunnilingus, mais qu'elle aime au niveau des pieds, après tout, chacun peut fantasmer ce qu'il veut.
Donc il doit se forcer, alors ?
Non, ça veut dire que si c'est vraiment indispensable pour elle, il y a quelque chose qui est dans l'inadéquation de la relation, bien évidemment.
Ah oui, donc là, vous remettez tout en cause pour une léchouille des pieds, quoi.
Bah, c'est elle qui semble le mettre. Parce que moi, il me semble que tout ça est très anecdotique.
Ah oui, c'est ça.
Si ce n'est que, bon, on peut dire, non, j'en ai pas envie, ou j'en ai envie, mais écoute, pas dans ces conditions, ou peut-être qu'en effet, il a envie qu'elle aille se laver les pieds parce que ça sera plus agréable pour lui.
Ça, c'est sûr.
Oui, écoutez, il faut aussi se laver les organes génitaux quand on a fait un rapport sexuel, les pieds ou tout le reste. Mais est-ce qu'elle pourrait pas commencer peut-être par un massage simplement pour y aller progressivement et peut-être.
Oui, avec de l'huile entre les mains, les doigts, pour passer entre les orteils. On n'est pas obligé d'y mettre la langue et de soumettre l'autre, effectivement. Il y a quelque chose, mets-toi à mes pieds, qui est de l'ordre du fantasme. Je pense que plus que la stimulation des pieds, c'est une idée de fantasme de l'autre à ses pieds. Et c'est justement de ça dont il s'agit. Et peut-être que ce totalitarisme peut être à réfléchir.
On peut commencer par lui masser déjà avant de lui lécher les pieds, non ? C'est déjà un bon début, non ?
Oui, c'est déjà pas mal. C'est une proposition, c'est un compromis. Parce que dans la relation, c'est toujours une sorte de compromis gagnant-gagnant et que tout le monde s'y retrouve. De toute façon, dans la relation amoureuse, plus que jamais, c'est vraiment la possibilité pour chacun de s'y retrouver, de se reconnaître, de ne pas se faire de mal. Tout en étant dans la direction de l'autre, bien évidemment.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Jimmy, on se retrouve tous les trois bien sûr demain à 15h et vous aussi qui nous écoutez. N'oubliez pas, si vous avez une question, vous nous laissez un message sur le répondeur d'Europe 1 au 3921, 50 centimes d'euros la minute et on y répondra bien évidemment dans l'émission.